France Culture.
Avoinu épisode 3, le cœur battant de la politique espagnole. Bonjour Josep Borrell.
Bonjour.
Après avoir parlé de votre enfance sous Franco dans un village catalan et de vos études exceptionnelles, de votre entrée en politique dans le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol au moment de la transition démocratique et des réalisations qui furent les vôtres en tant que secrétaire d'État aux finances dans le premier gouvernement socialiste de Felipe González, nous allons entamer dans ce troisième temps de nos avoinus les années 1990 et vos ambitions nationales. D'abord, en 1991, vous êtes nommé ministre des Travaux publics, des Transports et des Télécommunications. Je vous avoue qu'en lisant cette dénomination, j'ai été surprise par le rapprochement entre Travaux publics, Transports, ça va ensemble, mais Télécommunications, je le voyais un peu moins avec. Est-ce que tout ça faisait un grand ministère, mais un ministère cohérent ?
Ça faisait un grand ministère. Felipe González, il a mis ensemble plusieurs ministères et c'était difficile de trouver un homme. Et il m'a dit, je me rappelle très bien, tu as passé 8 ans en train de faire la collecte des impôts, maintenant tu vas les dépenser. Il a mis ensemble les travaux publics, et les transports, les télécoms, que finalement c'est des transports de l'information.
Certes.
De l'eau, du logement et de l'environnement.
L'environnement, c'est arrivé un peu plus tard quand vous avez été reconduit en 1993, non ?
Non, il était déjà dedans, mais il n'avait pas le nom.
Ah, il n'avait pas le nom.
Il n'avait pas le nom.
Et alors, c'est la première fois qu'il y avait un ministère de l'environnement en Espagne.
Exactement. Et la deuxième fois, j'ai voulu que le nom environnement soit présent dans les titres du ministère. C'était un ministère monstrueux, énorme. Très grand, tu pouvais faire beaucoup de choses. On avait des fonds européens, des fonds structurels. Ça a été une véritable pluie d'argent pour l'Espagne. Et on a construit des infrastructures à tour de bras, les trains de grande vitesse, Madrid-Séville.
Ligne du TGV espagnol, hein, Alta Velocidad Española, AVE.
Et maintenant, l'Espagne, c'est le deuxième pays au monde pour le nombre de kilomètres de grande vitesse, après la Chine. Mais à l'époque, c'était une première. Il y avait l'exposition universelle à Séville, il y avait les Olympiades.
En 1992.
C'était la grande année de toutes les grandes fastes de construction d'infrastructures, de ports, d'aéroports. J'ai créé la régie d'aéroports espagnols, parce qu'en Espagne, tous les aéroports appartiennent à une société publique mixte. Je ne sais pas comment en France, où il y a les aéroports de Paris, tous sont sous la coupole d'une organisation qui s'occupait de transport aérien. Les aéroports et la navigation aérienne, les contrôleurs. Ça va mettre tout ça ensemble. L'eau, la politique de l'eau, c'est qui a été une politique sur laquelle j'ai réussi à avoir quelques échecs fondamentaux parce que j'avais conçu un système d'interconnexion de bassins, de façon que l'Espagne, comme la France, a beaucoup de bassins, les bassins de Guadalquivir, les bassins de l'Ebre, enfin les grands rivières. Et le franquisme avait fait un transfert d'eau du Tage, la rivière centrale qui passe à Tolède, vers la Méditerranée, pour amener l'eau là où l'eau est plus profitable, parce qu'il y a la température qui permet de faire de la culture de primeur. Enfin. Et j'ai voulu faire
les fameuses tomates et les salades.
Les fameuses tomates et salades, exactement. Et ça, j'ai voulu imaginer un système très ingénieur d'interconnecter les bassins, de façon que quand il y en aura trop dans un bassin, on pourra faire un transfert d'eau dans un autre bassin. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition de la part de chaque bassin qui ne voulait pas que son eau puisse être transportée dans un autre bassin. Alors, j'ai fait un grand plan ambitieux qui a été très critiqué parce qu'on disait que c'était remplir l'Espagne de tuyaux pour amener l'eau d'un côté à l'autre. Et bon, ça a été un échec, je voulais faire ça.
Il en faut bien.
Ça n'a pas marché. Mais on a fait un réseau d'autoroute.
3000 km d'autoroute.
3000 km d'autoroute, exactement. Des aéroports partout. Je me rappelle un jour que le chancelier Schröder m'a appelé en disant...
Le chancelier allemand ?
Allemand, en disant qu'il était très mécontent parce que les touristes allemands, quand ils rentraient de l'Espagne, ils rentraient très jaloux parce qu'ils disaient « Ah, mais les aéroports espagnols sont magnifiques, sont beaux, sont faits en marbre, sont faits avec un design très moderniste. Nous, les aéroports allemands, c'est des boîtes à carton sans aucune grâce. Il faudrait que vous dépensiez moins à faire des beaux aéroports parce que finalement, c'est nous qui les payons. » J'ai dit oui, c'est vous qui les payez et c'est vous qui vous en servez. Mais c'est vrai, on a doté l'Espagne d'un réseau d'aéroports très performants, des aéroports qui sont déficitaires, sont subventionnés par les grands aéroports internationaux, ce qui a permis d'avoir des aéroports régionaux qui sont fondamentaux pour la connectivité du pays. La régie des ports de l'État, pour faire un peu la même chose. Et on a fait une modernisation très importante de la poste, qui était un système ancien, déficitaire, qui maintenant est aussi très performant. Donc je pense que l'Espagne est entrée dans une dynamique de modernisation physique. Et j'ai vu comment le pays changeait de peau. L'Espagne changer de géographie. Et ça a été quelque chose, à la limite, émouvant. Non ?
Très émouvant, on l'imagine. On imagine aussi, puisque l'Espagne était entrée dans la communauté économique européenne en 1986, que cette intégration a favorisé cette modernisation, ou c'est vraiment la collecte des impôts espagnols qui a...
Non, les fonds européens ont été fondamentaux. On avait des ressources fiscales. Comme je vous dis, Felipe m'avait dit, maintenant tu vas dépenser. Mais sans les fonds structurels européens, on n'aurait pas été capable de faire ce qu'on a fait. Mais on les a bien profité. L'aide européenne était là, et c'est-à-dire en l'honneur de l'Espagne qu'on en a bien profité. J'étais ministre des Travaux publics, peut-être le ministre des Travaux publics et des Infrastructures qui avait le plus de ressources dans toute notre histoire. Mais il n'y a pas eu de gros problèmes de gestion, il n'y a pas eu de gros problèmes de corruption. On a fait la libéralisation des télécoms. Il y avait le monopole d'État à Telefonica. Et c'est moi qui ai fini avec le monopole pour ouvrir à la concurrence, en faisant par un système d'enchères, de façon à donner deux licences de téléphonie mobile. Ça a été une poussée très importante, parce que l'Espagne, à un moment donné, il y avait une sérieuse contrainte de capacité de réseau. Alors il fallait investir beaucoup dans le réseau, la téléphonica traditionnelle n'avait pas assez, ni les ressources, ni la flexibilité pour faire face à la téléphonie mobile. Alors on a donné des licences de téléphonie mobile, bien avant que la France.
Et comment, Josep Borrell, l'ancien ingénieur de la compagnie pétrolière espagnole que vous étiez, a-t-il investi son rôle de ministre de l'Environnement ?
À l'époque, en Espagne, il y avait un problème. C'était le choc entre la construction des grands travaux publics et son impact environnemental. Et je me rappelle que Felipe González, il a dit, tu sais, c'est toi qui vas faire l'arbitrage. C'est toi qui vas être ministre à la fois des infrastructures et toi tu vas t'occuper de balancer avec l'impact environnemental.
De façon, pas facile, hein?
Oui, mais tu ne vas pas amener la question au Conseil des ministres. Si j'ai un ministre de l'environnement d'un côté et un ministre d'infrastructure de l'autre, ils vont tous se battre et à la fin, les arbitrages vont se faire au Conseil des ministres. Alors, je préfère que tu le fasses, toi avec toi-même, et que tu trouves le point d'équilibre entre faire des travaux et les faire vite, ou les faire plus doucement, en prenant soin de l'environnement. Et ça n'a pas été facile, non, ça n'a pas été facile, parce que chaque travaux public touche la nature, affecte l'environnement, surtout si c'est des travaux d'eau, des réservoirs, il fallait... bâtir de nouveaux réservoirs ou agrandir les réservoirs existants.
Et les autoroutes, les aéroports aussi, bien entendu.
Tout un impact environnemental. Alors, j'étais ministre à la fois d'une chose et de l'autre. Et donc, je devais faire les arbitrages. Et ça aussi, ça n'a pas été facile, mais c'était...
À l'époque, vous avez plutôt arbitré en faveur des travaux publics, en quelque
non,
sorte.
Non, pas nécessairement.
Non, vous avez pu faire un équilibre.
Un équilibre. Et puis, j'ai nommé un secrétaire d'État pour l'environnement, une secrétaire d'État, qui est devenue ma deuxième épouse. Qui maintenant est la présidente du Parti Socialiste, Cristina Narbona. Et plus tard, elle est devenue ministre de l'Environnement, tout simplement. Et elle était une des personnalités qui a plus marqué la politique environnementale en Espagne.
Josep Borrell, en 1996, les socialistes perdent les élections. Comment expliquez-vous que cet échec ?
Ben, on avait cumulé beaucoup trop de problèmes. De corruption d'abord. Beaucoup de problèmes de corruption, trop. On n'a presque pas perdu, parce que la figure de Felipe González était une figure très porteuse. Mais on a perdu. Et je pense qu'il y avait là aussi une partie d'hygiène démocratique dans cette défaite-là. Parce qu'on avait cumulé beaucoup trop de choses qui ne marchaient pas. Et puis, à l'usure du pouvoir. Felipe était président du gouvernement depuis 1982. Et on était en 1996. Et les temps avaient changé. Et bon, le Parti populaire a gagné pour un tout petit peu. Et il a été, comme nous maintenant, soumis au Parti indépendantiste catalan. Et alors, ça a commencé en Espagne, cette problématique de la Catalogne, la volonté d'indépendance, le sentiment que la Catalogne est expoliée par le reste de l'Espagne, qui alimentait la vie politique espagnole entre 1996 jusqu'à maintenant.
Oui, avec un moment fort, ça a culminé en 2017, l'année du référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Farouchement opposé, même si vous êtes catalan, Josep Borrell.
Oui, je suis tout à fait catalan et je me sens tout à fait espagnol. J'ai pas de problème avec mes deux identités, sont tout à fait compatibles. J'ai des amis d'enfance qui se disent non, moi je suis pas catalan, mais je suis pas espagnol. Et moi, j'ai la chance de me sentir à la fois catalan, espagnol, européen. J'ai pas de problème avec ça. Et j'ai été farouchement opposé à l'indépendance parce que je trouvais que c'était une mauvaise solution pour la Catalogne, pour l'Espagne, pour l'Europe. On va pas commencer à morceler les États en entités sous-étatales. Et ensuite, parce que les raisons qu'on faisait valoir pour justifier l'indépendance, c'était l'idée de que la Catalogne est expoliée, l'Espagne nous vole. C'était le mot d'ordre de l'indépendantisme. España nos roba. Et je disais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment, la Catalogne est plus riche que la moyenne, donc elle paye plus d'impôts de ce qu'elle reçoit comme dépense publique. Mais c'est normal. Ça se passe au niveau individuel et ça se passe au niveau territorial. Mais est-ce que vous dites que la Catalogne perd tous les ans 16 milliards d'euros en bénéfice des autres régions de l'Espagne, sont pas... C'est pas vrai, vous faites des calculs erronés, et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Las cuentas de los cuentos », c'est un jeu de mots, en espagnol ça sonne très bien, « las cuentas », et en français vous direz « les comptes et les comptes ».
Exactement. De l'indépendance.
Les comptes. Enfin, comment vous comptez les choses.
Les histoires, les comptes.
Et comment vous les racontez.
L'argent, oui.
Comment vous racontez les comptes que vous faites. Tout est faux. Enfin, alors, il a fallu que je fasse une analyse en disant, voilà, vous comptez ça comme ça, mais c'est... Mais vous, il fallait expliquer pourquoi les calculs donnaient un résultat absurde, non. Gonflé, artificiellement gonflé. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer la littérature. C'est alors là qu'on a commencé la bataille des narratives, hein, l'importance de la narrative, du discours, et comment les discours étaient alimentés par des éléments complètement faux. Par exemple, en Catalogne, on disait tout le temps « Ah, si nous, on était Länder allemand. » En Allemagne, les Länder sont protégés par une loi fondamentale qui dit que jamais un Länder va payer plus de 4% de son PIB en bénéfice des autres régions. Il y a une limite constitutionnelle à la quantité d'argent qu'un Länder donne aux autres. Et là, tout le monde le répétait, les journaux, les éditoriaux, les intellectuels. Ah, nous, si on était Länder allemand, on ne payerait pas plus de 4%, mais non, on paye le 16%, horreur. Et moi, j'ai cherché ces normes allemandes, on ne l'a trouvé nulle part. Je suis allé voir l'ambassadeur allemand en Madrid, et je lui ai dit, mais écoutez, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que c'est cette norme qui, d'après mes collègues catalans, protège le Länder allemand. Et l'ambassadeur m'a dit, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, alors, je vais faire des recherches. Il m'a écrit une lettre en disant, monsieur le ministre, Berlin m'informe que cette norme n'existe pas. Elle n'existait pas, mais tout le monde le disait comme si elle existait. Et alors, je me rappelle un débat télévisé très intéressant avec le leader du parti indépendantiste de la Catalogne, qui a répété la même histoire. Ah, si nous, on était un Länder allemand, on serait couvert. Et je lui dis, pouvez-vous me dire quelle est cette norme? Ben, je sais pas, mais il existe. Alors, j'ai fait sortir la lettre de l'ambassadeur allemand en disant, mais voilà, l'ambassadeur allemand n'a pas la même opinion que vous. Il me dit ici que cette norme n'existe pas. Depuis ce jour-là, cet argument a disparu. Évidemment, on ne pouvait pas continuer à raconter cette histoire. Mais ils ont continué à dire... Et là, je pense que le gouvernement espagnol, tous le gouvernement espagnol, ont failli à faire face à cette littérature fausse. Maintenant, si vous allez en Catalogne, ils vous diront que c'est pas 16, c'est 32 milliards que la Catalogne paye. Et on n'a pas été capable de dire non, c'est pas vrai. Et ça, c'est la réalité. Ça a été une défaite intellectuelle, parce qu'on n'a pas été capable de faire face à des histoires qui n'ont pas une base technique. Dans mon livre, je l'explique. On a vendu 30 000 exemplaires, tout le monde était très content, mais c'est trop technique, c'est beaucoup plus facile de dire une chose qui frappe les esprits, même si c'est pas vrai, qu'aller à décortiquer, analyser pourquoi vous dites ça, de quelle façon vous faites les calculs, et arriver à une somme beaucoup plus raisonnable, non? Il faudra que je réécrive à nouveau le livre.
Le livre date de 2015.
Oui, il faudra que je le réécrive à nouveau.
Ça va peut-être le mettre à jour. En 2017, Josep Borrell, vous avez publié un autre livre qui est un livre sur la réflexion, disons, sur la crise de la social-démocratie et le futur du Parti socialiste ouvrier espagnol. Mais là, on est déjà dans les années donc 2017,
17,
avant même que vous preniez votre mandat de ministre des Affaires étrangères en 2018. Mais peut-être pour comprendre comment on en arrive là, faut-il encore remonter à ces années 1996-18, où vous décidez-vous de vous lancer dans la bataille des primaires du Parti socialiste pour devenir candidat à la présidence du gouvernement?
Oui, mais ça n'a pas marché. C'était une histoire, c'est peut-être l'histoire la plus... La plus triste de mon parcours politique, parce que quand Felipe González a quitté le secrétariat général du Parti socialiste, il a perdu les élections en 1996, il a dit « bon, je m'en vais ». Il était fatigué parce qu'il avait été président du gouvernement pendant
82-96.
Il a dit « bon, ça suffit, je perds ». Et il a... Il a désigné son successeur. Il est allé au congrès de parti, il a dit, je vous propose que le nouveau secrétaire général sera Joaquín Almunia, qui avait été son ministre du Travail. C'est lui qui avait fait des chocs avec les syndicats. Quelqu'un avec beaucoup de qualités. Rien en contre, au contraire. Et il a désigné son successeur. Il n'y avait pas de discussion. C'était une sorte de succession presque monarchique, non? Et je pense que Joaquin s'est trouvé en un certain manque de légitimité. Il a dit, moi, j'étais pas été élu, j'ai été désigné, non? Alors, il y avait une certaine contestation interne. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le parti discute plus? Et je pense que Joaquin a eu un sentiment de dire, il faut que je réaffirme ma légitimité. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est dire, moi je suis le secrétaire général du parti, mais les candidats à la présidence du gouvernement vont être élus par les militants. Toujours le secrétaire général du parti a été d'une façon naturelle le candidat à la présidence. Et lui, il a voulu mettre en jeu le rôle de candidat à la présidence du gouvernement. Il a ouvert un processus démocratique pour que ce soit les militants qui choisissent.
Et les militants vous ont choisi?
Et moi, je me suis présenté. J'ai dit, bon, ben, c'est très bien, c'est un exercice sain, que la démocratie fonctionne, et que les militants puissent choisir. Normalement, c'est le secrétaire général qui va être élu, mais ouvrons le débat. Et je me suis présenté contre ce qu'on appelle l'appareil de l'organisation, non? L'organisation
pyramidale.
Pyramidale. Tous les secrétaires régionaux étaient avec les secrétaires nationaux. L'organisation s'est mobilisée en faveur de son chef. Et moi, j'ai fait une campagne qui a très bien marché. Et j'ai écrit ce petit livre au fil des jours.
Qu'on a évoqué dans un épisode
précédent.
Oui, que
j'avais fait un peu un recueil de mes pensées. Je pense que le mot d'ordre de ma campagne, ça a été dire qu'il faut faire la différence entre les droits et les marchandises. Dans la vie, il y a les droits, il y a les marchandises. Le socialisme fait la ligne divisoire entre ce que c'est qu'un droit et ce que c'est qu'une marchandise. Les marchandises, on les achète, les droits, on les a. Mais il faut les payer. La santé, c'est un droit. D'accord, mais c'est pas. On dit qu'elle est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Il faut la payer avec des impôts. Alors, la ligne divisoire, on est plus à gauche ou plus à droite en fonction de là où vous placez une marchandise ou un droit. Si vous dites que ça, c'est une marchandise, c'est à le marché de prévoir. Si vous dites que c'est un droit, c'est la politique qui s'en occupe. J'ai eu beaucoup de succès. Ça a été une campagne contre le système et qui a généré beaucoup de sympathie.
Bon, oui, et puis les sondages vous donnaient d'ailleurs capable de rivaliser avec le Premier ministre conservateur José María Aznar à l'époque. Donc vraiment, vous vous y voyez. Le problème, c'est que...
Non, j'ai gagné. J'ai gagné les primaires. Et ouais. Alors, il y avait un moment où j'avais gagné la candidature à la présidence du gouvernement. Mais le secrétaire général du parti continue à être Joaquín Almunia. Alors la grande question, c'était de dire, est-ce que c'est lui qui a gagné les élections primaires pour devenir candidat à la présidence du gouvernement, doit réclamer la direction du parti, ou est-ce qu'on s'installe dans une sorte de bicéphalie où il y a d'un côté, un secrétaire général qui a perdu, mais qui reste secrétaire général, et un candidat qui a gagné, mais qui ne contrôle pas le parti parce qu'il n'est pas secrétaire général. Et là, il y a eu une véritable discussion. Beaucoup de gens m'ont demandé, tu dois exiger de devenir secrétaire général du parti. Et d'autres qui nous ont dit non, secrétaire général n'était pas en question. C'était en question la candidature. Donc, on peut très bien travailler ensemble. Et vous allez travailler ensemble.
Et qu'avez-vous choisi?
Et moi, j'ai choisi de ne pas demander de devenir secrétaire général. Parce que cela aurait demandé faire un congrès, une autre bataille organique, des résultats incertains. Parce que c'était pas sûr que en ayant gagné les primaires par le vote populaire des membres du parti, j'aurais pu gagner la direction de l'organisation. Je préférais jouer coopératif. Et à un moment donné, a éclaté un scandale. Un certain nombre de mes collaborateurs, anciens collaborateurs, quand j'étais au ministère des Finances, on a découvert qu'ils avaient de la, qu'ils avaient des
soupçons de fraude fiscale.
C'est. Et bon, ça, ça a été amplifié d'une façon énorme. Comment peut-il être candidat si j'ai pas eu l'appui de la presse, même de la presse progressiste. Et je démissionnais.
Vous vous êtes retiré. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, c'était un des moments peut-être les plus difficiles de votre vie, parce que là, vous étiez en pleine ascension et patatras.
Voilà, j'étais bon. Je me suis dit à moi-même, je ne peux pas... Je n'ai pas la force morale de continuer à dire aux gens qu'il faut bâtir un système basé sur la justice fiscale, tout si malheureusement... Et puis, il y a eu un processus judiciaire qui a envoyé en prison à pas mal de gens. Et des gens qui n'étaient pas mes collaborateurs. Et je me suis dit que, bon, ben, il y avait une responsabilité politique. Que j'assumais ma responsabilité politique. Et à ce moment-là, Joaquín Almunia, qui avait perdu les primaires, est devenu candidat. Et il a obtenu un résultat horrible. Et Aznar a gagné la majorité absolue.
À partir de l'âge de Borrell, vous vous êtes engagé pour l'Europe sans vous retirer de la vie publique. Vous avez retrouvé vos fonctions universitaires pendant un temps, mais vous avez joué aussi un rôle public important dans le débat politique espagnol jusqu'à 2018, où vous êtes revenu comme ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération dans le gouvernement. Nous verrons votre engagement européen dans le quatrième temps de ces entretiens à voix nue. Merci beaucoup et à demain. C'était à voix nue avec Josep Borrell, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.